Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Marianne durant la case.
Jean Foyer, vous avez été élu en 1984 membre de l'Académie des sciences morales et politiques au fauteuil de Marcel Valline. Vous avez eu une longue carrière au service de l'État. Juriste de formation, vous avez été ministre, parlementaire, universitaire. Vous avez activement participé à la mise en place de la politique de coopération avec les anciennes colonies françaises, dont vous avez été un témoin de la marche vers l'indépendance. Vous avez approché de nombreux et divers domaines du droit. Vous avez été garde des Sceaux et président de la commission des lois de l'Assemblée nationale pendant plusieurs années. Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour madame.
Vous venez de publier en juin 2006 chez Fayard, sur les chemins du droit avec le général, Mémoire de ma vie politique 1944-1988. Alors, cette période correspond à votre vie politique. Vous l'entamez à 23 ans. Jeune résistant, vous entrez au cabinet de René Capitan, au ministère de l'Éducation nationale du gouvernement provisoire, dirigé par le général de Gaulle. L'expérience est déterminante pour votre parcours. Alors, comme le titre de votre livre l'indique, « Sur les chemins du droit avec le général », votre vie, votre carrière, votre action s'inscrit auprès de cet homme d'État. Vous poursuivez votre carrière sous la présidence de Georges Pompidou, période que vous intitulez « Le gaullisme sans De Gaulle », et elle prend fin justement à la fin des années 80. Vous empruntez effectivement les chemins du droit comme président de commission parlementaire, président de réforme du code de procédure civile, comme ministre de la Santé publique sous le gouvernement de Pierre Messmer. Vous avez été un élu de la République, maire, conseiller général, député, maire de Contigné, où vous êtes né. Le plus surprenant, c'est qu'en plus, vous n'avez pratiquement jamais cessé d'enseigner le droit et de publier. Vous avez été professeur de droit à Paris, à Lille, à Nanterre, à Angers et à Paris 2 à Sas, où s'achève votre carrière en 1989. Pour compléter ce portrait, j'ajouterai que vous êtes un grand amateur de chants grégoriens et que rarement dans la vie d'un juriste, comme le faisait remarquer votre confrère François Terray, en déposant votre ouvrage sur le bureau de l'Académie des sciences morales et politiques, trois composantes ont été réunies dans votre parcours, l'accès à la politique, la réforme du droit et enfin le récit de cette action qui nous réunit aujourd'hui grâce à la publication chez Fayard de vos mémoires. Monsieur le ministre, quelles raisons vous ont poussé à écrire vos mémoires ?
Oh, la raison, c'est que j'ai une espèce de manie qui est celle de noircir du papier. J'en ai noirci des quantités industrielles, qui n'ont jamais vu le jour ensuite, je ne sais pas ce que ça deviendra, mes neveux les brûleront probablement parce que ça ne les intéressera pas, mais j'avais pensé que j'avais tout de même quelques souvenirs, et puis le temps passant que j'étais le seul à les avoir encore, être encore vivant, qu'il y avait un certain nombre de choses que je pouvais écrire et que je pouvais rappeler. J'en avais d'ailleurs écrit beaucoup plus qu'il n'en a été publié, parce que j'en ai supprimé un peu plus de 300 pages, parce que l'ouvrage...
Donc ça faisait le double.
Comment, oui, l'ouvrage serait devenu trop important. J'avais un peu envie de le publier, mais enfin sans que ça me taraude beaucoup, parce que je faisais des quantités d'autres choses. Et puis tout de même, avant de le publier, j'ai voulu faire une opération qui m'avait paru prudente. Lorsque vous publiez un ouvrage de ce genre-là, ordinairement, les historiens vous épinglent en relevant les erreurs de date, les choses comme ça que vous avez commises. Alors, j'ai voulu, moi, pratiquer un contrôle préalable à une éventuelle publication. Et alors, j'ai eu l'idée de faire lire mon ouvrage par une historienne qui est Sabine Janssen. Alors, elle l'a lu, elle l'a trouvé bien, et elle m'a poussé à le publier en s'occupant elle-même de négocier avec Fayard. Alors voilà dans quelles conditions cet ouvrage a vu le jour.
Alors toutes les précautions ont été prises et ça en fait un ouvrage effectivement très précis, très complet. Et je voudrais qu'on revienne...
Je pense d'ailleurs que je n'ai pas été trop épinglé depuis que cet ouvrage est publié.
Alors écoutez, c'est que justement...
Par conséquent, je pense que j'ai respecté la vérité historique.
Au cours de votre formation de légiste, dont vous parlez, vous revendiquez ce terme, au cours de vos années d'apprentissage, au début de votre ouvrage, je voudrais vous demander quelle personnalité vous a le plus marqué.
C'est
difficile parce qu'entre les juristes...
Qui m'ont pu le marquer au début, un certain nombre de maîtres que j'ai eu à la faculté de droit de Paris.
Sur les 30 ans de votre vie politique, vous dites que vous êtes entré au Parlement et au gouvernement sans l'avoir vraiment cherché ni demandé.
Ah oui, mais... alors tout à fait. Ça m'est tombé
c'est
dans
surprenant.
Les mains sans que je l'ai sollicité et sans même que j'ai pensé ou deviné que ça allait m'arriver. Vous avez vu, j'ai raconté comment j'étais devenu député, tout à fait par hasard. Et comment je suis devenu ensuite, je suis entré au gouvernement. Et alors, à cet égard, il y a une personnalité à laquelle je dois une grande reconnaissance pour ça, c'est Michel Debré.
Voilà.
Même finalement, ma carrière politique, si j'en ai une, elle est due au départ à Michel Debré.
Alors, vous avez participé à l'élaboration de la Constitution de 1958, la 15e Constitution de l'histoire de France. Entrons, Jean Foyer, si vous le voulez bien, dans les arcanes de l'élaboration de la Constitution de 1958, dans la rédaction du texte. Pour cela, un comité consultatif constitutionnel avait été mis en place, qui donnait ses avis sur les propositions d'un groupe de travail présidé par le garde des Sceaux, Michel Debré. Alors, quel était, au sein de ce groupe de travail, votre rôle en tant que représentant du ministre d'État Houphouët-Boigny ?
Le rôle principal que j'avais, j'étais là-bas, il faut que je vous dise que j'étais au groupe de travail que présidait Michel Debré,
du comité...
en tant que représentant d'un ministre d'État qui était Félix Houphouët-Boigny.
Vous faites un très joli portrait de lui, d'ailleurs.
C'est un homme que j'ai beaucoup admiré.
Oui.
Et alors, mon rôle, c'était d'une part... de soutenir son point de vue autour de la table, et puis d'autre part de lui rendre compte le soir de ce que nous avions examiné le matin et d'essayer de le rallier à la position qui avait été adoptée par le garde des Sceaux en conclusion des travaux de ce groupe de travail. Ça n'a pas mal marché d'ailleurs de cette façon-là. Et l'entente a été parfaite. Alors j'étais donc, je ne connaissais pas Michel Debré avant de rentrer dans ce comité, mais pendant plusieurs semaines, j'ai siégé tous les matins sous sa présidence. Alors, c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance, et alors c'est lui qui a eu l'idée de me faire député. Après le référendum, il fallait renouveler l'Assemblée nationale, selon un nouveau mode de scrutin, puisqu'on passait de la représentation proportionnelle au scrutin uninominal. Alors, l'un des députés de Maine-et-Loire, qui était le maire d'Angers, un des députés sortants, qui était un grand résistant, un homme tout à fait remarquable, qui s'appelait Victor Châtenay, était un ami de Michel Debré. Et parlant ensemble, Victor Châtenay dit à Debré, je suis à la recherche d'un suppléant, je voudrais trouver un suppléant dans la partie rurale nord de la circonscription dans laquelle je vais me présenter. Et alors, Michel Debré lui dit, mais... siège dans mon groupe de travail tous les matins un garçon qui s'appelle Jean Foyer et qui est né précisément dans la partie rurale nord de votre département où il a d'ailleurs toujours sa maison. Du coup, Victor Châtenay me dit « Voulez-vous devenir mon suppléant ?» Je dis volontiers, moi ça m'amusait de faire une campagne électorale, surtout de la faire avec lui, parce que c'était un homme dont la conversation était très agréable. Il avait eu, lui et toute sa famille, une activité de résistance extraordinaire, mais il avait beaucoup d'expérience et un très grand don de conteur, etc. La conversation avec lui était tout à fait passionnante. Alors je me dis, j'ai passé comme ça les semaines de la campagne électorale en me promenant avec lui dans sa circonscription. Et puis quand il a été réélu, je me dis, maintenant, je vais retourner à mes travaux, c'est-à-dire je vais retourner enseigner le droit. Et puis, alors dans la suite d'un concours de circonstances d'un pataquès extraordinaire, Victor Châtenay devient membre du Conseil constitutionnel et me voilà devenu député de Maine-et-Loire. Ça ne devait pas être pour longtemps. Parce que je suis un des rares suppléants qui réussit, c'est-à-dire il a réussi à devenir député sans avoir tué le titulaire. Bon, eh bien, en effet, Victor Châtenay, je suis donc devenu, je suis redevenu député, et puis je ne le suis pas resté longtemps, puisqu'au bout de 11 mois, Michel Debré, lors d'armaniment du gouvernement, me fait entrer et me prend comme son secrétaire d'État pour traiter des questions des relations de la République française avec les pays d'Afrique et de Madagascar. Alors voilà, ça a été mon entrée dans la vie ministérielle.
Vous avez travaillé avec ces hommes politiques africains, vous avez siégé avec eux au comité consultatif constitutionnel, et il y avait à l'époque un grand débat entre fédération et communauté. Pouvez-vous nous raconter un petit peu la mise en place de ces cadres, de ces nouveaux cadres de l'après-guerre ?
C'est-à-dire le point de départ, la grande transformation, a comme point de départ la loi cadre de 1956, dont le rédacteur est Pierre Messmer, qui est chancelier honoraire de l'Institut.
Et que vous avez retrouvé aussi tout au long de votre carrière.
Ah ben oui, parce que Messmer et moi, nous sommes entrés dans le gouvernement le même jour, le 5 février 1960. Alors, cette loi, la loi cadre, c'était une loi de décentralisation, d'ailleurs très, très poussée dans la décentralisation, et tout le monde était d'ailleurs assez vite convaincu qu'elle n'avait été qu'une étape, et c'était une étape qui ne devait pas durer très longtemps, parce qu'il y avait une aspiration considérable au changement, si ce n'est dans la population, qui n'était probablement pas tellement excitée par ce problème, mais dans le personnel politique. C'était d'ailleurs inévitable, car la décolonisation française était devenue inévitable, c'était un mouvement mondial qui poussait déjà pendant la durée de la guerre, d'abord par les États-Unis. Les États-Unis, c'est assez curieux, c'est difficile de les comprendre. Les États-Unis se considéraient comme d'anciens colonisés qui s'étaient libérés. En réalité, ce n'était pas du tout vrai. Les Américains, qui se sont séparés de l'Angleterre, par la guerre d'indépendance, c'était pas du tout décolonisé, c'était des colons qui étaient venus d'Europe. Et quant aux colonisés, c'était les Indiens qu'ils ont refoulés dans des réserves. Enfin, ça fait rien. Ils sont, à la fin de la guerre, ils étaient les chantres de la décolonisation, et en particulier le président Roosevelt. Puis d'un autre côté, les Soviétiques de l'autre poussaient également, ils cherchaient à s'implanter en Afrique. Et alors, à partir du moment où la plus grande des dépendances coloniales était devenue indépendante, c'est-à-dire l'Inde, et qui avait été proclamée indépendante au nom de George VI par l'amiral Mountbatten le 15 août 1947, il était certain que toutes les autres colonies allaient y penser.
Bon. C'était inévitable.
Mais alors la question était de savoir quel allait être le statut définitif, parce que malgré tout, et les métropoles et les territoires d'Afrique et de Madagascar ne voulaient pas couper les liens avec la France. Il ne voulait pas les couper, je veux dire, un peu pour des raisons sentimentales, et puis aussi d'ailleurs pour des raisons simplement financières, économiques et intéressées, étant donné la part que déjà, depuis 1946, la France avait prise au développement de ces pays, et un développement qui était encore tout à fait à ses commencements, qu'il fallait continuer et qui exigeait des capitaux importants. Alors il s'agissait de savoir quelle était la structure politique qui devait être adoptée. Alors c'est là qu'on a vu apparaître une division entre deux hommes d'État importants que leurs troupes ont suivis, qui étaient d'un côté Léopold Senghor et d'autre côté Félix Houphouët-Boigny. Alors Senghor aurait voulu que l'on proclamât l'indépendance de ces pays groupés entre eux, comme ils l'étaient déjà à ce moment-là, du point de vue administratif, dans ces groupes de territoires qui étaient l'AOF et l'AEF. Et ensuite, devenus indépendants, ils auraient conclu avec la France un traité de confédération. Mais Houphouët-Boigny se disait qu'il fallait maintenir des liens plus étroits avec ce qu'avait été la métropole si on voulait obtenir que le contribuable citoyen métropolitain acceptât un effort soutenu et même augmenté en faveur du développement de ces pays. Et alors il souhaitait que l'on constituât un État fédéral et que les territoires africains deviennent des États fédérés au sein de cette fédération. Voilà, les positions, elles n'étaient pas très faciles à réaliser, ni d'un côté, ni de l'autre. Parce qu'en réalité, le groupement, ils n'étaient pas tous très favorables à ça. Et que d'autre part, si il était évident que si on les déclarait d'autorité indépendante, le pacte confédéral, on ne sait pas trop ce qui serait. Et alors, inversement, du côté Houphouët-Boigny, il y avait une chose qui était certaine, mais que Houphouët-Boigny acceptait très bien lui-même, c'est qu'au départ, cette fédération, elle ne pouvait être que très inégalitaire. Parce que on ne pouvait pas demander aux citoyens de la République française que leur pays cessât d'être un État indépendant, et ce serait donc été une fédération, c'était ça ce qu'était d'ailleurs la communauté dans sa première version, soit faite d'un État indépendant qui était la République française, et puis d'une cohorte d'États qui étaient simplement autonomes.
Alors, c'est effectivement la mise en place des cadres de la décolonisation française. Monsieur le ministre, je vous propose de marquer une courte pause musicale, et j'invite nos auditeurs à vous retrouver dans quelques instants, Jean Foyer, pour nous présenter votre dernier livre, publié chez Fayard, sur les chemins du droit avec le général, mémoire de ma vie politique 1944-1988.
Vous écoutez Canal Académie.
Nous retrouvons Jean Foyer pour nous présenter son dernier livre publié chez Fayard sur les chemins du droit avec le général, mémoire de ma vie politique 1944-1988. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous raconter effectivement, au moment de 1958, la constitution de 1958, permettait d'organiser les rapports de la République avec les peuples qui lui sont associés. C'est un des grands principes de la constitution. Et qu'est-ce que ça signifiait justement par rapport aux événements que vous avez précédemment évoqués et par rapport à la loi cadre de fer?
Oui, écoutez, il s'agissait à ce moment-là, la fin de la 4e République avait été marquée par l'impossibilité de modifier le titre 8 de la Constitution de 1946, qui réglait les problèmes de l'Union française, et on n'avait jamais trouvé une majorité parlementaire pour modifier ce titre 8, mais tout le monde était convaincu qu'il fallait le modifier. Et la procédure de révision constitutionnelle adoptée au début de en juin 58 consistait à confier au gouvernement le soin de préparer un nouveau projet de constitution et à le soumettre au référendum, à le faire adopter par le peuple français au référendum. Et alors, le mandat, c'est un mandat donné au gouvernement par le Parlement, par la loi du 3 juin 1958, indiquait les principes que le texte constitutionnel devait être mettre en ordre. Et le troisième, c'était, comme vous venez de le rappeler, de régler les relations entre la France et les pays qui devaient lui être associés. Alors, il faut dire que dans le gouvernement du général, constitué le 1er juin 1958, Houphouët-Boigny était ministre d'État. Il était ministre d'État, on l'avait choisi parce qu'il était le chef d'un parti politique qui s'appelait le Rassemblement démocratique africain, qui détenait la majorité dans les assemblées territoriales qui avaient été réélues après la loi cadre. Il est donc considéré comme le plus représentatif de l'Afrique. Le futur Premier ministre Georges Pompidou était, comme vous le savez, un ami de jeunesse de Léopold Senghor. Ils avaient été à l'œuvre ensemble, à Saint-Louis-le-Grand, préparer l'agrégation à la même époque. Ils étaient très amis tous les deux. Et alors, Georges Pompidou, étant directeur du cabinet du général de Gaulle, à ce moment-là, en 58, avait essayé de faire entrer Senghor également dans le gouvernement. Et on lui avait proposé une fonction de secrétaire d'État. Mais il a fait des manières, etc., si bien qu'à la fin, le général dit « bon, il n'en veut pas, et il passera une autre fois ». Mais le texte, le premier avant-projet, si j'ose dire, qui a été publié dans un cahier sous couverture rouge, contenait un titre de la Fédération et mettait en œuvre l'idée, les idées que je viens de vous dire tout à l'heure, celui d'une fédération encore inégalitaire. Et c'était les idées de Fouette Boigny qui l'avaient emporté, mise en œuvre par un texte qui avait été rédigé, d'ailleurs assez rapidement, à la fin de la période préparatoire, par Michel Debré, avec l'aide d'un de ses collaborateurs, qui était Jérôme Solal-Sélini, qui a joué un très grand rôle dans l'élaboration de la Constitution, et puis moi qui avais été entré dans le coup, qui était chargé des liens avec, à tout genre dans ce domaine-là, avec Fouette Boigny. Alors, ce texte devait être examiné par un comité consultatif constitutionnel qui se tenait au Palais Royal et qui était composé notamment de parlementaires désignés par l'une et l'autre des deux assemblées.
Et là, vous avez justement insisté
Attendez, alors, oui, bah là-dedans, moi j'étais là-bas dans une modeste fonction de commissaire du gouvernement. Oui. Parce que le président du conseil, qui était le général de Gaulle, avait un commissaire du gouvernement qui était Raymond Jeannot, aujourd'hui disparu, et puis chacun des ministres d'État avait été invité à désigner également un collaborateur comme commissaire du gouvernement. Alors vous aviez là-dedans André Chandernagor qui représentait Guy Mollet, François Luchaire qui représentait Jacquinot, Gulner qui représentait Fimelin, et puis votre serviteur qui représentait Fouette Boigny. D'ailleurs, je veux dire, ça a bien réussi parce que, en tout cas, les quatre commissaires du gouvernement que je viens de vous dire, qui avait des sensibilités politiques différentes, si vous voulez, nous sommes depuis cette époque-là restés très copains. Et nous avons gardé beaucoup d'estime et beaucoup d'amitié les uns pour les autres. Alors, la commission du suffrage universel de l'Assemblée nationale avait désigné trois personnes, qui étaient Senghor, c'était en second lieu Gabriel Lisette, qui était à ce moment-là vice-président du conseil du gouvernement du Tchad, qui était l'émissaire de Fouette Boigny, et puis Philibert Tsirane, qui était vice-président du conseil du gouvernement de Madagascar. Et quand à la commission du Sénat, elle y avait envoyé là-bas le vieux socialiste Lamine Gueye, qui avait été longtemps maire de Dakar. Alors, au comité consultatif constitutionnel, Senghor a essayé de faire passer son idée de la Confédération. Alors, il faut rappeler que le texte que nous avions soumis contenait un article 76 qui disait qu'après l'entrée en vigueur de la Constitution, chaque territoire aurait un choix à faire entre trois partis différents. Soit rester avec le statut de territoire d'outre-mer, soit devenir département d'outre-mer, soit devenir territoire membre de la communauté. C'était la thèse de la Fédération. Et alors, Senghor, lui, voulait faire ajouter un quatrième parti qui était la Confédération. Ce dont le gouvernement ne voulait pas, parce que si on faisait ça, c'était à l'encontre de Fouette Boigny, entrer en guerre avec lui, et puis d'autre part de se dire que si d'entrée de jeu, on les déclarait, tous indépendants, bah, il était évident qu'à ce moment-là, il ne ferait plus la fédération, qu'il voudrait passer à la confédération tout de suite, etc. Bon, finalement, le comité consultatif constitutionnel n'a pas finalement renoncé à cette idée, et il a développé pas mal le texte du projet constitutionnel avec même une certaine tendance. Et à certains égards, il était moins libéral, si vous voulez, que le projet du gouvernement, parce qu'ils ont cherché à renforcer la part réservée au sommet plutôt qu'à l'autonomie des États.
Nous marquons une courte pause musicale et j'invite nos auditeurs à nous retrouver dans quelques instants.
Vous écoutez Canal Académie.
Nous retrouvons Jean Foyer pour nous présenter son dernier livre publié chez Fayard sur les chemins du droit avec le général, Mémoire de ma vie politique 1944-1988. Monsieur le ministre, vous avez été ministre pendant 8 ans, et sur ces 8 ans, vous avez été garde des Sceaux du général de Gaulle. Et j'aimerais qu'on évoque maintenant cette période entre 1962 et 1969. C'est une période historique pour la France relativement douloureuse et compliquée. Mais quelle expérience tirez-vous de ces fonctions de garde des Sceaux ? Elles ne sont déjà pas évidentes, parce que là c'était...
Écoutez, tout d'abord, j'ai écrit dans mon livre... que j'étais devenu garde des Sceaux contraint et forcé.
Oui, ministre forcé, c'est comme ça que commence le chapitre.
Parce que le gouvernement Debré donne sa démission un samedi du mois d'avril 1962, au cours d'un dernier conseil des ministres. À la sortie du conseil des ministres, l'aide de camp de service me dit, Monsieur Pompidou, qui fait son gouvernement au ministère des Affaires étrangères, vous demande d'aller le voir. Je vais le voir, et il me demande d'être garde des Sceaux. Moi, j'avais pas envie d'être garde des Sceaux à ce moment-là, en me disant « ça va être impossible, on a les histoires de terrorisme et tout le reste, je vais pas m'en tirer ». Alors, je lui dis « écoutez, je lui ai même dit, c'était un peu idiot de ma part de parler un tel langage ». Je lui dis « vous savez, c'est pas un cadeau à faire à un enfant. Trouvez donc un homme politique plus confirmé que moi pour se charger de ce ministère pendant cette période épouvantable ». Et puis je refuse. Le soir, appel de M. Burin des Rosiers, secrétaire général de l'Élysée, qui dit « Le général vous recevra demain matin à 9h30 ». À 9h30, j'étais là. Je ne suis pas resté 5 minutes. Et le général a dit 3 phrases. Il me dit « Première phrase, vous savez ce qui arrive ». Je ne voulais pas le contrarier, j'ai fait un signe d'assentiment. Deuxième phrase, il me dit « Monsieur Fimelin, après avoir accepté le ministère de la Justice, sous la pression de ses amis MRP, n'en a plus voulu. » Général, dans la circonstance, il a craché les mots MRP plutôt qu'il ne les a prononcés. Comme le Premier ministre me l'avait dit la veille au soir, j'ai fait un deuxième petit assentiment à ce moment-là. Le général pointe son index vers moi, il me dit « Dès en les circonstances présentes, avec un ton du commandement, j'attends de vous que vous n'ayez pas la même lâcheté. » Je dis « Mon général, si vous le prenez comme ça, il est évident que je ne peux plus vous dire non. Je ne peux penser pas de taille à porter ce chardeau. Bah, vous en décidez autrement, je ferai ce que je pourrai. » Voilà comment je suis devenu garde des Sceaux. Je ne le levais pas à l'intrigue, vous le constaterez.
Effectivement, alors en plus la période était fort compliquée, c'est la période de répression contre
du terrorisme OAS.
De l'OAS, et c'est la période des grands procès, etc. Avez-vous des regrets sur la politique que vous avez menée en tant que garde des Sceaux à ce moment-là, Monsieur Jean Foyer ?
Oh, écoutez, non, j'ai pas de regrets, parce que finalement, dans l'affaire la plus délicate dans laquelle je me suis trouvé impliqué, ben, j'ai finalement obtenu satisfaction. Vous savez que le putsch d'Alger avait été dirigé par 4 généraux d'armée, qui étaient Charles, Zeller, Jouot et Salan. Jouot est arrêté au printemps de 1962, il passe devant le tribunal militaire, qu'il condamne à mort. Et avant que le Conseil supérieur de la magistrature ait eu le temps d'examiner son recours en grâce, arrestation de Salan. À ce moment-là, je me suis dit, il y aurait intérêt à gagner du temps. Car, manifestement, Jouot est le moins coupable des deux. Si Salan est condamné à mort, le général de Gracia, par conséquent, il faut tempérer. Alors, mais j'ai fini par le convaincre. Je lui ai dit, écoutez, il peut se faire qu'au cours des procès, on ait besoin de confronter Salan et Jouot. Il vaudrait mieux garder Jouot en vie. Bon, ça va bien. Puis alors, le procès Salan se tourne très mal, et Salan est presque acquitté. Il s'en sort avec une condamnation à la détention qui n'était pas très grave, pas très lourde, étant donné la gravité des faits, parce qu'enfin, il avait été l'un des artisans du putsch d'Alger, et ensuite, il avait dirigé l'AOS en donnant des instructions d'assassinat et de condamnation à mort, parce que c'était quand même ça, là. Il sauve sa tête. Et là-dessus, le général me convoque à 11h du soir, et me dit, bon, je vais rejeter leur cours en grâce de jour.
De jour.
Dis, oui, il ne faut pas le laisser faire ça. L'histoire le lui reprochera. Il aura laissé exécuter, finalement, le moins coupable des deux, parce qu'il n'a pas pu obtenir la tête de l'autre. Ça noircira son image. Alors, et je vais le lendemain matin, je me précipite chez le Premier ministre Pompidou, où je trouve Louis Jox, et tous les trois, on est tombés d'accord en disant, bah, écoutez, il faut qu'on l'empêche de laisser exécuter Joux. Et puis on me dit, bah, c'est à vous de vous débrouiller. Bah, je suis allé voir le général trois fois, il me met à la porte en me disant que j'étais là pour faire exécuter les condamnations de la justice et non pas pour en sauver les criminels, etc. Et je voyais ça, la dernière. Alors, pendant que le gouverneur militaire de Paris préparait l'exécution qui devait avoir lieu le samedi matin au trou d'enfer dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Et je vois le général la troisième fois, il était 10h30 du matin, et je m'en allais ensuite au tribunal de commerce présider la réunion annuelle des présidents et membres des tribunaux de commerce où je devais prononcer un discours sur la réforme de la faillite. Alors j'y vais, et à peine avais-je terminé mon discours, qu'on me fait passer un papier, le bâtonnier charpentier, avocat de Jouot, était au ministère de la Justice et me demandait à me voir immédiatement. Je file au ministère de la Justice, je n'ai pas déjeuné ce jour-là, et j'ai le bâtonnier charpentier, que je connaissais bien, m'apporte un recours en révision qui, dans le fond, était complètement absurde, mais qui, du point de vue de la procédure, était génial. Parce qu'étant donné la cause qu'il invoquait, je pouvais soutenir que, bien que le texte qui avait institué le haut tribunal militaire décida que ces décisions n'étaient susceptibles d'aucun recours, même en révision, que dans ce cas-là, je ne pouvais pas, de ma seule autorité, déclarer le recours irrecevable, qu'il fallait que je le fasse déclarer irrecevable par la Cour de cassation. En me disant, dans ce cas-là, on va gagner quelques semaines, et puis les choses se seront tassées. Alors, là-dessus, je me dis, bon, il faut que j'aille maintenant faire accepter ça par le général. Ça va mal se passer, il faudrait que je renforce un peu ma position. Alors, je demande au premier président et au procureur général de la Cour de cassation de venir me voir, et je leur dis, bon, là, est-ce que vous estimez que je peux classer sans suite de ma seule autorité ce recours en révision, ou que je doive le faire déclarer irrecevable par la Cour de cassation? Alors, le premier président Battestini, qui était fin comme l'ombre, et qui comprenait au quart de tour, a immédiatement vu où je voulais en venir, et avec son superbe accent corse, il m'a dit, vous ne pouvez certainement pas déclarer ce recours irrecevable de votre seule autorité. J'ai dit, monsieur le Premier Président, je vous remercie, mais je vous serai encore beaucoup plus reconnaissant si vous voulez bien l'écrire. Et je ferai prendre une lettre à la Cour de cassation à 3h. À 3h, j'ai fait prendre ma lettre, et je suis allé voir le Premier ministre Pompidou. Je lui ai dit, ben écoutez, j'ai réglé le problème, on a gagné quelques semaines. Alors, il a éprouvé une satisfaction évidente. J'ai cru qu'il allait me serrer sur son cœur de contentement. Bon, il ne l'a pas fait. Et il m'a dit, mais vous allez vous faire engueuler par le général, je vais y aller avec vous. Alors, nous voilà partis tous les deux. Alors, je veux dire que j'ai passé une heure qui a été très désagréable. Je me suis fait sérieusement savonner la crâne. Mais enfin, au bout d'une heure, il a fini par admettre qu'en droit, je ne pouvais pas faire autrement. Donc, il n'y a pas eu d'exécution le lendemain matin. Mais le lendemain matin, il nous reconvoque de nouveau, le Premier ministre, Pierre Messmer, ministre des Armées, et moi, et il recommence à m'engueuler. Alors, à bout de 20 minutes, j'en ai eu assez. Je lui dis, mon général, écoutez, si je mérite les reproches dont vous m'accablez depuis 20 minutes, il est clair que je suis indigne de rester votre garde des Sceaux 5 minutes de plus. J'ai l'honneur de vous remettre ma démission et je m'en vais. Et je pars avec mon porte-document sous le bras. Le Premier ministre se lève, le ministre réservé se lève, ils me retiennent par mes basques, et le général Olympia me dit « Asseyez-vous, ça va bien !» Puis il n'en a plus été question. Alors les choses ont passé, etc., etc. Mais il n'avait toujours rien signé. Et puis un soir du mois de septembre, à la suite de mon audience, il relève son sous-main, il en sort un papier. Il me dit « À propos !» J'ai signé hier soir le décret de commutation de la peine de jour. Il ajoute, il me semble me souvenir que vous-même, vous étiez plutôt partisan de l'exécution. Oh. Mais je pense que vous ne refuserez pas de faire notifier mon décret. En général, dans ce cas comme dans les autres, j'exécuterai à la lettre vos instructions. Et ça a été fini. Mais j'avais cru pendant un temps, je me suis dit, après le coup que je viens de faire, là, où finalement je lui ai forcé la main, au prochain remaniement ministériel, il va me renvoyer à l'enseignement du droit à Lille. Mais finalement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Il m'a gardé 5 ans, garde des sceaux. À partir de cet événement-là, il a certainement dû considérer que je lui avais rendu service. Mais bien entendu, il ne me l'a jamais dit.
Monsieur le ministre, pendant cette période, vous avez également assisté à l'ouverture du Concile de Vatican II. Dans quel cadre? Comment se fait-il mais que écoutez, vous ayez assisté à l'ouverture de ce Concile?
J'ai assisté à l'ouverture du Concile du Vatican II. Tant garde des Sceaux, dans les conditions suivantes. Les gouvernements avaient été invités par le Saint-Siège à se faire représenter à cette cérémonie d'ouverture. Et cette représentation revenait normalement au ministre des Affaires étrangères. Mais le ministre des Affaires étrangères de ce moment-là était M. Couve de Murville, qui appartenait à la confession réformée. Et comme cette confession est très minoritaire en France et que la majorité de la population est, ou tout au moins était à cette époque-là, de religion chrétienne, le général avait estimé qu'il fallait lui adjoindre un ministre qui fût de confession catholique. Alors voilà dans quelles conditions j'ai été chargé d'accompagner le ministre des Affaires étrangères à cette cérémonie, que j'ai d'ailleurs, ça m'a beaucoup intéressé de la voir, parce que c'est sans doute la dernière fois qu'on a vu une cérémonie de cette solennité. C'était vraiment la vieille liturgie tridentine qui a été exécutée devant nous ce matin-là et que sans doute nous ne reverrons plus. Ça durait énormément longtemps. Il a fallu, et nous devions être arrivés à Saint-Pierre de Rome avant 8h du matin, et nous en sommes sortis pour aller déjeuner vers 2h de l'après-midi. Ça a duré 6h.
Alors, de cette journée, vous avez un souvenir particulier?
Oh, un souvenir particulier, c'est-à-dire que j'y ai vu pas mal de monde, et j'ai raté d'ailleurs une des opérations que je voulais réussir, ce qui témoignait d'ailleurs déjà d'une certaine évolution de l'épiscopat français. Dans l'assemblée qui avait été élue en 1958, un des députés de la Lozère était l'abbé Vialet. C'est un homme très remarquable, qui avait été un grand résistant, et c'était un homme d'une très grande pointure intellectuelle. Et alors, l'Assemblée ayant été dissoute après le vote de censure, l'évêque demande a interdit à l'abbé Vialet de se représenter. Alors, le gouvernement trouvait très fâcheux que l'abbé Vialet fût obligé de quitter le Parlement, où il jouait un rôle discret mais très utile. Et alors, on m'avait chargé d'essayer de négocier avec l'évêque de Mende, que celui-ci revint sur son interdiction et qu'il laissa l'abbé Vialet se représenter. Alors, j'ai profité d'une réception à l'ambassade auprès du Vatican pour épingler l'évêque de Mende et essayer de le fléchir, mais je n'ai réussi à rien. Et j'ai constaté que c'était une position collective qui avait été adoptée. Ça montrait le glissement de l'épiscopat par rapport au pouvoir politique.
Monsieur le ministre, je vous propose de marquer une courte pause musicale et j'invite nos auditeurs à vous retrouver dans quelques instants pour évoquer vos mémoires politiques de 1944 à 1988 et nous évoquerons votre action de légiste et de président de commission de loi des finances.
Canal Académie.
Monsieur le ministre, vous avez été pendant 12 ans président de la commission des lois de finances de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pouvez nous décrire d'abord cette fonction Et puis ensuite, quels enseignements avez-vous tirés de ces longues années?
Ben écoutez, là, vous évoquez maintenant une de mes activités les plus importantes et celle qui a peut-être laissé une œuvre la plus durable, c'est-à-dire le travail législatif, qui est une des fonctions essentielles du garde des Sceaux. Mais alors, je l'ai exercé, cette fonction, dans des conditions différentes, je peux dire même en trois qualités principales. D'abord, quand j'étais ministre, bien, j'ai déposé devant le bureau des assemblées et défendu devant les assemblées un certain nombre de textes. Et puis ensuite, quand j'ai quitté le ministère de la Justice, je suis devenu président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Et alors là, j'ai présidé à la discussion en commission puis en séance plénière d'un certain nombre de textes. Et d'ailleurs, j'en ai rapporté moi-même plusieurs. Et puis enfin, il m'est arrivé d'accepter des présidences de commissions extra-parlementaires pour l'élaboration de textes. C'est ainsi que j'ai présidé la commission qui a refait le nouveau code de procédure civile. Alors, voilà le commencement, donc, le commencement a été à la chancellerie, à Place Vendôme. Et je me suis lancé dans cette aventure à partir, à la fin de 1963, quand j'ai vu enfin le terme des procédures criminelles contre l'OAS, contre les actes terroristes de l'OAS. Je me suis dit que c'était là, que nous avions une assemblée dans laquelle on avait une majorité forte, à laquelle on pouvait donc faire voter des textes dans un climat pacifique. Et je suis allé exposer au général que les grands règnes avaient été de grands règnes législatifs. Alors, pensez Auguste à Rome, Justinien à Byzance, Louis XIV, Napoléon, etc. Ma foi, il a assez bien reçu cette idée. Je lui ai dit que nous vivions encore avec un certain nombre de codes et de lois qui dataient de la période impériale, consulaire ou impériale, qu'ils avaient besoin d'un rajeunissement certain. Et il a très bien admis la chose, et je dois dire que par la suite, il s'y est intéressé. Il s'y est intéressé quand je soumettais des textes au Conseil des ministres pour qu'ils fussent déposés. Il les regardait, il les lisait, il discutait. Et il m'a toujours soutenu de telle sorte que j'ai toujours obtenu dans l'ordre du jour des assemblées le temps nécessaire pour les faire voter, etc. C'est une œuvre qu'il a bien considérée. Et alors, moi, j'ai commencé par faire...
Et c'est celle dont vous êtes le plus fier.
Oui, oui, oui. Alors, et d'autre part, je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti, parce que pour refaire un certain nombre de textes du Code civil, j'avais demandé sa collaboration à un juriste éminent, qui était le doyen Carbonnier, sous les ordres duquel j'avais commencé ma carrière universitaire à Poitiers quand j'étais modeste chargé de cours. Et c'était un homme d'une intelligence exceptionnelle et d'une science consommée qui, d'autre part, avait un style remarquable. Il était capable d'écrire dans la même langue que Portalis. Alors, on a commencé la refonte du Code civil comme ça. Le travail n'était pas terminé quand j'ai fait voter trois ou quatre textes. Le travail a continué ensuite, mais à partir de 1981, après l'alternance, il semble que ce travail-là n'a plus intéressé grand monde. Puis j'ai refait une partie du code de commerce sur le droit maritime, j'ai refait des temps de loi sur la copropriété. Enfin, j'ai un bilan législatif assez important.
Du code.
Et ça, je veux dire que ça m'a beaucoup passionné, parce que là, j'étais, je dois dire, tout à fait dans ma partie, puisque mon métier, c'était d'enseigner le droit et que je suis agrégé des facultés de droit.
Quel est le texte législatif que vous jugez le plus important aujourd'hui, peut-être ?
Écoutez, le plus important, par ses dimensions,
oui.
Bien que ce texte soit pas du tout uniquement mon œuvre, car il a été l'œuvre d'une petite équipe au sein d'une commission. C'est quand même, je crois, le code de procédure civile, le nouveau code de procédure civile, qui est un code complet. Et les textes que nous avons refaits dans le code civil, à mon avis, sont bien faits. Même si, par la suite, ils ont été un peu retouchés, mais enfin, c'était peut-être pas indispensable.
Alors, comment arriviez-vous à concilier vie parlementaire, vie professorale vie politique, quand même,
Vous avoir frappé. De constater que j'avais cumulé les deux fonctions. Ben, je les ai cumulées tout simplement parce que elles sont juridiquement cumulables. Lorsque l'incompatibilité du mandat parlementaire avec l'exercice d'une fonction publique a été instituée, on était en 1848. Après la révolution de 48, on avait, dans la période précédente, sous la monarchie de Juillet, beaucoup reproché à Guizot d'avoir, autant qu'il le pouvait, peuplé la Chambre des députés de fonctionnaires qui restaient fonctionnaires, le préfet de la Seine était en même temps, et qui naturellement marchait au canon. Et alors, la Seconde République, la Deuxième République, peu de temps après son institution, due à la Révolution, a fait décider que désormais le mandat parlementaire ne serait pas compatible avec l'exercice d'une fonction publique. Mais on avait ce texte, sous prétexte que ces gens-là étaient indépendants, avait excepté de cette règle les professeurs titulaires de faculté. Et cette disposition a toujours subsisté. J'ai d'ailleurs pas été le seul, moi, à me prévaloir de ça. J'ai des collègues de tous les bords politiques qui étant élus députés ou sénateurs ont continué à faire leur cours. Alors moi j'ai continué à le faire, moi, tout simplement parce que j'aimais bien ça. Mmh, ça m'intéressait beaucoup, ça m'a toujours beaucoup intéressé d'enseigner le droit.
Mmh, c'est...
Et je pense que je ne l'ai pas trop mal fait.
Est-ce que les hommes politiques d'aujourd'hui bénéficient d'une formation continue comme ça aussi, puisque vous avez le fait de pouvoir continuer à enseigner le droit et les de le faire évoluer, d'être effectivement au cœur de l'action et de la volonté politique? Vous étiez vraiment au carrefour.
Je crois que les hommes politiques aujourd'hui qui tiennent la place la plus importante, ce sont anciens élèves de l'ENA. Aujourd'hui, ce sont les énarques qui sont au pouvoir.
Revenons à votre expérience d'élu de la République. Alors, quelles sont les réflexions d'un élu local, puisque vous avez été maire au Conseil Général des Ponts de Cé? Quelles réflexions avez-vous tirées de ces mandats?
Je ne sais pas si mon témoignage est très, très topique, parce que j'ai été maire de ma commune natale pendant 42 ans.
Oui.
J'ai pas voulu m'y représenter en 2001, pensant qu'on allait peut-être me trouver un peu vieux à ce moment-là. En effet, cette année-là, j'atteignais 80 ans. Mais c'est une fonction que j'ai beaucoup aimée. Mais elle n'est pas tellement typique ou topique, parce que c'est une petite commune qui a un peu moins de 700 habitants. Alors, ce n'est pas une grande ville. Et c'est une commune où j'ai bien aimé cette fonction. D'abord parce que je connaissais tout le monde. Et je remarque, au fond, j'aimais bien ça parce que ça montrait qu'ils me considéraient que j'étais le leur, que dans cette commune, aucun de mes administrés ne m'a jamais appelé monsieur le ministre. Jamais.
Vous étiez très proche, alors.
Comment
très
oui,
proche.
Oui, mais j'allais dire de plein pied avec eux. Et puis, que d'autre part, je me suis efforcé de ne pas politiser le conseil municipal et de ne pas laisser entrer la politique dans l'action communale, la vie communale. Alors, ça s'est très bien passé. Et j'ai trouvé beaucoup de satisfaction dans cette fonction, d'autant plus que je considère que je ne me suis pas trop mal débrouillé, parce que j'ai quand même fait un effort d'équipement de cette commune qui a été important. Et quand je l'ai laissée, elle était de toute une série de communes alentour la moins imposée et celle dont le taux des impôts locaux était le plus faible. Alors, et j'avais une voirie en parfait état, etc. Par conséquent, je considère que j'ai assez honnêtement fait le travail.
Monsieur le ministre, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, il y a eu une grande bataille autour de l'avortement.
Oui.
Et là, vous avez pris une position...
Voilà, j'ai été vaincu sur toute la ligne.
Qui marque un petit peu votre retrait de la vie politique après ça? Ou pas tout de suite, quand même?
Oh, mon retrait de la vie politique, je ne m'en suis quand même retiré que assez tard avec ça, parce que le grand combat s'est livré en 1974, à la fin de 1974-75, et je suis quand même resté député jusqu'à 1988. À ce moment-là, je me suis rendu impossible, et c'est évident, mais enfin, ça m'était égal.
Vous avez été également un opposant actif à partir de 1981. oui. que vous relatez dans cet ouvrage. Vous racontez également les batailles pour l'enseignement libre, toutes vos positions. Quel regard avez-vous porté justement sur la réalité des institutions de la Ve République avec ces changements politiques ?
Ben, je dois dire que les périodes de cohabitation n'ont pas été des périodes très satisfaisantes et qu'elles ont d'ailleurs été aggravées quand la cohabitation n'a plus duré seulement 2 ans, mais qu'elle a duré 5 ans. Et qu'effectivement, ce régime tel qu'il était devenu, parce que tel qu'il a fonctionné, effectivement, il était assez différent de celui qui était écrit dans le texte constitutionnel, ben, pour bien fonctionner, il suppose tout de même une suffisante harmonie entre la majorité parlementaire et le président de la République. Et dans le cas contraire, ça ne fonctionne pas très bien. Ça pourrait fonctionner très bien si, dans la période de cohabitation, le président de la République s'en tenait à ce qu'avait été la fonction définie dans le texte, qui est défini dans le texte de 58, qui est d'ailleurs toujours en vigueur. C'est-à-dire de se comporter, en somme, comme s'étaient comportés les présidents de la Troisième et de la Quatrième République. Mais aucun d'entre eux n'a voulu jouer le jeu complètement. Et en période de cohabitation, eh bien, malheureusement, le président de la République est tenté de se comporter non plus comme chef de l'État, mais comme le chef de l'opposition. Alors, les résultats n'en sont pas heureux. Et le tout a d'ailleurs été aggravé par Mitterrand quand avant les élections présidentielles de 86, quand il avait voté une loi organique qui allongeait indéfiniment le nombre des fonctions auxquelles à la nomination du président de la République. À partir de ce moment-là, mais pas seulement pour changer un fonctionnaire socialiste sans lui donner une compensation, c'était devenu une chose impossible. Pour muter un sous-préfet, il fallait que le gouvernement discute pendant 2 mois avec Mitterrand en période de cohabitation. On ne peut pas administrer un pays de cette façon-là.
Vous portez un constat sévère à la fin de votre ouvrage sur la façon dont la France contemporaine est gouvernée.
Oh, oui, je trouve que la situation fonctionnaire actuelle n'est pas typique d'un grand courage, parce que toutes les fois qu'il y a de l'agitation dans un secteur, tout ce qu'on trouve, ça consiste à ce moment-là à ouvrir les caisses et à distribuer de l'argent, de telle sorte que si vous lissez le rapport Pébrou, vous avez un sentiment, une impression, un jugement sur la dette absolument colossale qu'on a accumulée au cours des années et qui est une dette que la génération laissera aux générations futures. Et tout ça n'est pas satisfaisant. D'autre part, on constate que malheureusement, le pouvoir, quelle que soit la couleur qu'il ait à un moment donné, est malheureusement beaucoup trop exposé et cède beaucoup trop aux pressions de certains groupes de pression. Et le problème, c'est de libérer le pouvoir.
Alors, au terme de cette émission, je peux citer la phrase d'introduction que vous avez choisie pour votre livre, puisqu'il s'agit d'une leçon de droit que vous donna le général de Gaulle, mais qui résume quand même les valeurs qui sont les vôtres. Souvenez-vous de ceci, vous dit-il, il y a d'abord la France, ensuite l'État, enfin, autant que les intérêts majeurs des deux sont sauvegardés, le droit. Alors,
oui, ben écoutez, c'est une leçon de droit public que le général m'a donnée. Il faut la prendre en se souvenant de ce qu'était le général qui adorait le paradoxe. Par conséquent, souvent, il forçait sa pensée et ça ne correspondait pas tout à fait exactement à ce qu'il pensait réellement, mais il avait le désir de faire réagir l'interlocuteur. Bon, c'était un peu ça dans ce cas-là. En réalité, il était beaucoup plus juriste que légiste, que cette formule ne le laisse croire. Il était juriste, mais il était quand même légiste. À savoir que le droit doit permettre de sauvegarder les intérêts supérieurs et non pas être un système, une espèce de paralysie qui empêche les pouvoirs publics d'agir.
Jean Foyer, il me reste à vous remercier d'être venu au micro de Canal Academy, présenter votre dernier ouvrage, vos mémoires politiques, Sur le chemin du droit avec le général, mémoire de ma vie politique 1944-1988, publié en juin 2006 chez Fayard. Monsieur le ministre, nous vous remercions.
Madame, je vous remercie d'avoir eu la patience de m'écouter.